On accueille tout de suite Arlette pour la revue de presse des Hebdos. Salut Arlette.
Bonjour Léo, bonjour à toutes et à tous. Alors oui,
l'actualité a été tragique cette semaine.
Eh bien c'est vrai, tragique, on peut le dire. La manière de travailler des Hebdos est en principe décalée par rapport à l'actualité brûlante. Leur lecture permet de se faire une opinion, l'émotion un peu retombée. L'attaque du Hamas contre Israël, la majorité des Hebdos le traite pourtant à chaud. Dans le Canard enchaîné, l'édito de la semaine d'Éric Emtaz garde néanmoins cette réserve propre aux hebdos. Oh, il est vibrant, cet édito, intitulé sobrement « Le chaud et l'effroi ». Il tacle, mais brièvement, la réaction de Mélenchon, qui se dit lapidé. Mais ce que s'efforce de faire Emtaz dans son édito, et je vous invite vraiment à le lire, c'est d'analyser cette attaque pour la situer dans le domaine du terrorisme. Il s'agissait bien pour le mouvement islamiste et le chef de sa branche armée, Mohamed Deyef, à l'origine de cette affaire et recherché comme terroriste international, de terroriser. Plus loin, il écrit « L'attaque du Hamas dans toute son horreur. Ce n'est pas un acte de résistance ni un acte de guerre. C'est bien un acte de terrorisme dans toute son horreur et dans son déroulement, avec la même motivation d'assaillant qui vise d'abord des civils, vieillards, femmes, enfants. Et encore, terrorisme encore et sur toute la ligne, parce que cette terreur et ces atrocités reviennent en rebond sur les Palestiniens que les islamistes du Hamas prétendent défendre en faisant de Gaza leur place forte. » Emtaz termine inquiet. Netanyahou entend réduire en cendres le Hamas terroriste, mais terroriser la Palestine peut aussi nourrir le brasier.
L'Express situe aussi très clairement l'action du Hamas dans le champ du terrorisme.
Et il l'affiche sur sa couverture. Israël dans le piège terroriste du Hamas. Et Cyril Pluyette, dans son édito intitulé « Le peuple palestinien, l'autre victime du Hamas », développe. L'organisation terroriste n'a aucune solution politique à apporter. Les habitants de Gaza vont subir de plein fouet la riposte d'Israël sans voir pour autant progresser leur cause. Ce thème est développé dans l'ensemble du dossier avec une analyse très approfondie sur les risques pris par Israël avec sa riposte. Deux articles traitent du sujet. Israël bascule dans un nouveau monde après l'attaque du Hamas. L'assaut mené par le Hamas au sein de l'État hébreu le 7 octobre a fait des centaines de victimes et stupéfié le monde entier. La réponse israélienne s'annonce sans précédent. Et encore, à Gaza, la riposte d'Israël s'annonce terrible et à très haut risque. Pour répondre au massacre du 7 octobre, les autorités israéliennes risquent de lancer une opération militaire massive dans la bande de Gaza, avec des conséquences humaines dévastatrices. Le reste du dossier explore les effets de ce massacre pour le Liban. Le coût d'une opération du parti chiite pourrait être très élevé pour le Liban déjà en ruine. Pour l'Iran, armer le Hamas reste le moyen le plus efficace de s'attaquer à son ennemi juré. Et pour le Hamas lui-même, avec son offensive terroriste, le Hamas, soutenu par l'Iran, vise une contagion dans le monde arabe pour essayer de torpiller le rapprochement entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite. Pour l'islamologue Gilles Kepel, la razzia du Hamas marque une victoire pour l'islamisme frérot-chiite. Et en coulisses, l'Express aborde des sujets connexes au drame israélien. En page 14, un réquisitoire sans concession. LFI et la complaisance envers l'antisémitisme. La preuve par 5 par Anne Rosacher. Alors, on lit LFI, mais on entend Mélenchon, évidemment. Et plus loin encore, un autre article en marge. LFI, le Hamas et Israël. La véritable histoire derrière le communiqué de la honte. Comme les non-bis. Les non-dits, pardon, et les oublis involontaires de Mélenchon. Et les insoumis ont mis la NUPES à mal et réveillé le grand malentendu de la gauche sur son rapport à Israël et aux Juifs.
La couverture de Courrier International est aussi bien en phase avec cette actualité.
Oui, Courrier International a réagi lui aussi et titre sur sa couverture « Israël en état de choc ». L'attaque sans précédent du Hamas a sidéré la presse étrangère qui s'inquiète aussi des conséquences des bombardements sur Gaza. L'Hebdo a traduit les articles parus depuis le 7 octobre dans la presse israélienne palestinienne et internationale. Vous trouverez en page 10, dans la rubrique « 7 jours dans le monde », les papiers de The Atlantic, d'un mensuel américain, d'Al Majalla, mensuel dirigé à Londres par le frère du roi d'Arabie Saoudite, le pro-occidental prince Salman, d'Al Jazeera, la télé basée à Doha. Amir Thibon, journaliste du quotidien israélien à Haaretz, quotidien israélien de gauche, habite dans un kibboutz, voisin de la bande de Gaza. Il a vécu l'offensive du Hamas au plus près des événements. Il raconte ses heures d'angoisse passées dans une pièce sécurisée avec sa famille. Son témoignage s'achève sur cette phrase « Mais pour beaucoup trop de nos amis et de nos voisins, en ce jour noir du samedi 7 octobre, l'État d'Israël a failli à ses obligations. » Sur le site d'Al Jazeera, Rouwaïda Amer, à son tour, témoigne. Cette réalisatrice palestinienne décrit la vie infernale dans la bande de Gaza, soumise à des bombardements ininterrompus et meurtriers depuis le 7 octobre. Nous détestons la nuit pour ce qu'Israël nous inflige. Quand Mohamed Deyef, le chef des brigades d'Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, a annoncé que le groupe mettait en œuvre une opération d'un nouveau genre, son discours n'a nullement dissipé la peur et l'angoisse qui accompagnent chaque fois la nouvelle d'actes de résistance. Combien d'habitants de Gaza trouveront la mort cette fois ? Courrier international recense les articles qui mettent en cause l'incurie de Netanyahou. Pour l'ensemble de la presse israélienne, le premier ministre israélien et ses alliés suprémacistes sont les premiers comptables de ce merdal, déroute en hébreu. À lire dans Haaretz, évidemment. Un éditorialiste du journal gratuit Israël Hayom préfère la comparaison avec le 11 septembre 2001. Sur le site The Times of Israel, David Horowitz écrit « Tous les signes étaient là, bien en vue. Ils ont été ignorés et cela est impardonnable. » Le gouvernement israélien, mais aussi l'armée et les services du renseignement, expliquaient même que le Hamas ne se satisferait d'un armistice officieux en échange d'une reprise de l'aide économique israélienne, avance Nahum Barnea dans Yediot Aharonot, de centre droit. C'était en fait un trompe-l'œil pour la presse locale. Israël paie le prix de sa politique du gouvernement de Benyamin Netanyahou. L'armée a été distraite de sa mission première de protection du territoire d'Israël, explique Ben Kaspit dans Palestinienne, dans les colonnes du journal de droite Ma'ariv. Le courrier laisse la place à la presse palestinienne. Dans Mayala, Mayed Kayali, journaliste palestinien, explique pourquoi le Hamas a décidé d'attaquer Israël sur son sol. Si le mouvement islamiste a choisi de passer à l'attaque, c'est qu'il était lui-même en difficulté à Gaza et qu'il avait besoin de redorer son blason. Une rubrique titre « La Cisjordanie sur le qui-vive ». Alors que les projecteurs sont braqués sur Israël et la bande de Gaza, les tensions restent vives en Cisjordanie, où l'épicentre du conflit israélo-palestinien semblait s'être déplacé ces derniers mois. Dans un autre article, le courrier passe en revue la presse internationale sur un éventuel embrasement régional face au risque de l'ouverture d'un second front par le Hezbollah ou d'une intervention de l'Iran. Les analystes diffèrent. L'hebdo décortique aussi les analyses sur la main invisible de l'Iran, invisible avec le 1 entre parenthèses. Selon le quotidien américain, le Wall Street Journal, l'attaque du 7 octobre aurait été étroitement coordonnée avec Téhéran. Une affirmation à prendre avec prudence, estiment toutefois certains analystes. La République islamique, elle, dément toute implication. Alors il faut saluer le travail des traducteurs du courrier. Ils nous aident à saisir la complexité de ce moment d'intense émotion.
Alors, donne-nous les titres que les autres hebdos ont écrits sur leur couverture.
La couverture du 1, colorée et drôle, titre « Jusqu'où ira l'Empire Disney ?» Alors je voulais faire l'impasse, mais j'avoue que la lecture du 1 sur un sujet aussi éloigné de l'actu m'a fait un bien énorme. Disney. Alors pourquoi Disney? Eh bien, Julien Bisson, dans son Zakouski, nous donne la réponse. Il y a 100 ans, le 18 octobre 1923, deux frères originaires du Missouri, Walt et Roy Disney, fondaient dans le garage de leur oncle à Hollywood un studio de dessin animé appelé à devenir mondialement célèbre, incarné par la silhouette iconique du Mickey Mouse. Le un explore alors ce qu'a fait Disney en un siècle, ce qu'il est devenu, un mastodonte, une multinationale de 200 milliards d'actifs. Mais au-delà des chiffres, c'est bien le poids de Disney dans la culture mondiale qui impressionne. Vous saurez tout sur le Disney d'hier et d'aujourd'hui en repliant le 1 de la semaine. Mais pour votre information, sur son site, Julien Bisson, rédacteur en chef du 1, écrit « Pour autant, nous n'oublions pas l'actualité terrible des derniers jours. Nous vous proposons dès aujourd'hui une chronique quotidienne de notre journaliste Sylvien Sipel, éminent connaisseur du Proche-Orient, ancien directeur de la rédaction de Courrier International et auteur, entre autres, de l'État d'Israël contre les Juifs. Il apportera chaque jour son regard et ses analyses pour mieux comprendre ce qui se joue dans la guerre actuelle. »
Il nous reste Télérama.
Avec le portrait de Martin Scorsese en couverture, il est l'invité de la semaine. En signant son premier western à 80 ans, le plus cinéphile des réalisateurs sonde encore l'histoire violente des États-Unis. Il s'en explique en répondant à Laurent Rigoulet. Killers of the Flower Moon sortira le 18 octobre prochain. D'autres portraits de personnalités dans ce numéro. Najès Mohammadi, l'Iranienne, prix Nobel de la paix. La comédienne Afia Erzi, à l'affiche du film Le Ravissement. Joyce Carol, qui nous offre un nouveau roman, Babysitter. Et même moins glorieux, celui de Jacques Cardoz, journaliste qui a passé 27 ans sur France 2 et qui termine sa carrière comme chroniqueur chez Cyril Hanouna, en bavant sur la main qui l'a nourri pendant près de 30 ans. Ouais.
On termine cette intense revue de presse avec l'horoscope de Rob Bresny.
L'individu moyen ne veut pas être libre, il veut être en sécurité, affirmait le journaliste satiriste et libre-penseur H.L. Mencken, surnommé le Nietzsche américain. Pour être provocatrice, cette formule comporte une part de vérité. Mais je crains qu'elle n'ait pour toi aucune pertinence dans les mois à venir, Vierge. Si j'en crois mon analyse de ton ciel, tu es actuellement en mesure de te sentir tout à la fois plus en sécurité et plus libre que tu ne l'as été depuis longtemps. J'espère que tu tireras pleinement profit de cette conjoncture. Quels exploits inattendus pourrais-tu accomplir pendant cette période de grâce ? Allez, Vierge, de l'audace. C'est ainsi que je traduis, moi, l'injonction d'Europe Brésil.